Les Français n'ont pas de tsarot. Enfin, les tsarot d'Israël Krasnour se renforceront tachlit achizou, de façon absolue. Mais yatsar lahem, et ça engendrera pour eux, il en arrivera, chez Isnou Behayem, ils haïront leur propre vie. Mais Yomru, et ils diront, El Herarim, aux montagnes, Kesouni, recouvrez-nous. Belagevaot, et aux collines, Yomru, ils diront, chez Iplou Alehem, que les collines tombent sur eux. Mipene Atsarot Agdevot, à cause des grandes souffrances, chez Isoveroum, qui les atteindront, Mikolsad, ou Pina, de tous côtés, Veitrabe Atsarar, et l'angoisse se multipliera, Adacher Loïfnou à Avot et Labanim, jusqu'au point que les pères ne se tourneront même plus vers les fils, les Cholmi Sheinsa et Asmolo Shalal, et quiconque trouvera un butin quelconque pour lui, Gibor Venotsea Rikare, sera appelé vaillant. Et cette espèce d'occurrence où, si on arrive sauf à trouver un morceau de pain ou la moitié d'un morceau de pain, c'est un héros. Vous voyez donc, j'ai cité que quelques phrases de ce texte, c'est un texte très long et très mesarzer, et ce n'est pas le seul texte. En particulier, les descriptions que nous avons dans le Ramak montrent qu'ils ont décrit un état du monde sans, et ça c'est comme les prophètes, comme les talmudistes, sans les kabbalistes, sans rentrer dans le détail des faits, mais en décrivant le phénomène. Je ne sais pas si c'est clair la différence. Un prophète ne parle jamais des faits, mais du phénomène. Comment ça arrive? Ça, c'est l'histoire qui le montrera. Qu'est-ce qui arrive? Ça y peut. Vous avez compris la différence? Et d'ailleurs, c'est à ça qu'on reconnaît un vrai prophète. C'est-à-dire qu'il ne fait pas des prédictions, mais des prophéties. Je pense que c'est clair. Voilà donc le premier exemple. Et ça renforce quoi? Et maintenant, nous allons aller voir la chose dans la Gemara. Ça renforce ceci. C'est deux choses à la fois. Que depuis l'origine, nous avons ces deux éventualités. Mais au fur et à mesure que le temps avance, et en particulier lorsqu'on arrive à la fin du deuxième millénaire de l'exil, alors on va mettre l'accent sur le fait que tout se passe comme si c'est trop tard, c'est irréversible, on a pris le mauvais chemin, et voilà où il mène. Tout de suite, je pense à une question qui vient ici. Mais ces hommes-là, qui étaient les guides spirituels du peuple, à toutes les générations, comment se fait-il qu'ils n'aient pas eu la force d'alerter suffisamment leur peuple pour que ça change? Et c'est clair. Mais on pourrait déjà revenir à la définition même du prophète. Aucun des prophètes n'a jamais réussi à ce que son message passe. Sauf peut-être Moïse. Mais on a l'habitude de dire, c'est pour réfléchir à ça. On a l'habitude de dire, nul n'est prophète en son pays. Peut-être qu'il faudrait dire, nul n'est prophète en son temps. Mais en tout cas, peut-être la vraie question, c'est pas tellement pourquoi en leur temps les prophètes n'ont pas réussi, mais pourquoi dans les temps suivants, on n'a pas compris la leçon des prophètes des temps précédents. C'est peut-être comme ça qu'il faudrait le comprendre. Et donc, on est en train déjà de traquer où sont les responsabilités. Je crois qu'il faut simplement signaler, et s'il y a parmi vous des spécialistes de bibliothèques qui parlent de la Shoah, vous le savez, que déjà dans les années 20, à partir de la fin de la Première Guerre mondiale, il y a eu quand même énormément de leaders du peuple juif qui ont tiré ce signal d'alarme. Et la même question se repose, comment fait-il qu'on ne les a pas entendus? Je pourrais vous citer des noms, mais ce n'est pas nécessaire, il y en a eu beaucoup. En particulier, je pensais à Jabotinsky, d'ailleurs. Mais, pas seulement, chez les rabbins aussi. En particulier, le Rav Al-Kalai, bien avant. Le Rav Kalischer, le Rav Kook, bien entendu, en pleine Première Guerre mondiale. Et il se faisait traiter d'apicorsi. Il se faisait traiter d'hérétique. Et je ne sais pas comment dire, la question se renforce. Je continue l'analyse. Oui. Justement, voilà, il parle. Mais ils ont parlé comme ils devaient parler. Non, c'est pas une question de secret. Je veux dire, non, je voudrais expliquer ta question. C'est-à-dire, comment il sait ce qu'il a dit, ça c'est secret. Mais ce qu'il a dit n'était pas secret. Et vous savez. Oui. Mais... Alors attendez, tout de suite. Attendez une minute. Tu me diras après. Je ne sais pas si les explications que je vous donne sont claires, mais sachez qu'elles ne sont pas plus claires que les explications que cela donnait en leur temps. Le fond du problème, c'est pourquoi on ne les entendait pas. C'est ça que je veux dire. Et alors regarde la réponse de Jésus. Bien que l'État d'Israël ne fait pas rien, et que c'est un fait concret massif, qu'il y a 4/5 du peuple juif. En conséquence, quand le mystère reste.
Justement, il y a une question que je pose exactement dans la même question. Le temps de l'époque de l'Andrade et l'Émile, il y a 1/5 du peuple qui est revenu au
système. Bon, alors je vais parler de ça. Je ne voudrais pas que vous ayez encore une fois, et ça reviendra sans fois, ça peut dire. Cette impression de la fatalité, ça veut dire on n'y peut rien. Je veux dire, pourquoi ? Non, mais c'est moi qui l'ajoute corollairement. Parce que, je vais te dire comment ça s'accroche. Si ceux qui savaient, et qui disaient ce qui est arrivé, donc qui disaient la vérité, n'ont pas été entendus, et sachez que ces hommes-là étaient respectés en leur temps comme des saints hommes. Je ne sais pas comment ils en sont testés. Le Rav Azoulay, de l'école de Tzfat, c'était le Ramat, le Hari. Et chaque fois qu'ils disaient des choses pieuses, on les écoutait pieusement. Dès qu'ils disaient des choses vraies, on tournait le dos. Je ne sais pas comment vous dire ça. Alors, il y a quelque part quelque chose à éclairer.
Il y a fait.
Il y a fait. Seulement, c'est vrai. Seulement, ça semble être tellement permanent que ça pose une question beaucoup plus ample. Alors, je vais reprendre quand même très brièvement, parce que je ne voudrais pas que vous soyez impressionné par cette répétitivité de l'éventualité négative, catastrophique. Prenons ce schéma qui est très important, de 1/5 à la sortie d'Égypte, 1/5 à la sortie de Babel, 1/5 de notre temps. Si vous faites la proportion statistique entre les Juifs d'Israël et les Juifs de l'étranger, c'est à peu près ça. Alors, première objection sur notre temps. Pourquoi prendre la statistique dans les années 80? Parce que dans les années 60, 50, 40, elle était autre, peut-être dans les années 90, 100, 2000, elle sera autre. Pourquoi la prendre maintenant, cette statistique? Parce que ça tombe bien pour l'addition. Hein. Et je crois qu'il y a une raison. Et malgré la raison que je vais vous donner, tout est ouvert. La raison est que il semble bien que ceux qui ont décidé la Aliya sont en train de la faire, il n'y en a pas d'autre. Ça veut dire, à partir de la guerre des six jours de 68, c'est peut-être le moment de la fin de l'Aliya des communautés. Depuis, c'est des individus qui régularisent une décision qui était plus ou moins enfouie en eux, mais les communautés de diaspora se sont installées. Il y a une autre polarité juive, la diaspora. Jusqu'à 68, on pouvait se dire que la diaspora est en marche. Ça a été vrai jusqu'à 68 peut-être. À partir de 68, c'est l'aliyah des fonds de tiroir. Nous sommes les fins de série, je veux vous dire. On a pris le dernier autobus. Bon. Et c'est très visible à l'œil nu. L'aliyah n'est plus une aliyah de communauté, de la communauté juive. Elle est une aliyah des individus. Et parfois en dépit de la communauté et de l'agent juif, d'ailleurs, si vous remarquez. C'est tipine. Bon. Ça veut dire, là, ça rejoint Maïmonide. Hein. Il arrivera un jour où la punition de l'exil, ça sera l'exil. Alors ça se referme. Hein. Ça devient, non mais c'est vrai, ça devient de plus en plus difficile de faire ça à l'île. Je pense que c'est clair. Et la clita aussi devient de plus en plus difficile. Mais chaque fois, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a en avant. Voilà donc la raison que je veux dire. Mais je reprends le problème des 1/5. C'est quand même assez mystérieux. Voilà qu'on découvre une loi qui se répète 3 fois à propos d'événements qui n'ont eu lieu que 3 fois, et c'est la même proportion qui joue. Cette loi-là, de 1/5, 4/5, contredit toute l'atmosphère de la Torah, qu'il n'y a pas de fatalité, qu'il y a une liberté. Est-ce que c'est clair? Alors je vais essayer de vous dire comment j'ai étudié cette chose-là depuis déjà très longtemps. Ça m'a préoccupé. Ça fait au moins 40 ans que j'ai étudié cela. Et j'ai étudié d'ailleurs à l'université, le problème que j'ai vu. On sait que les phénomènes humains sont soumis à des lois statistiques. Mais je vais essayer de vous montrer, ça c'est évident, que les phénomènes humains sont soumis à des lois statistiques qui sont des cas particuliers de la loi des grands nombres. Et je vais essayer de montrer que ces lois statistiques n'ont rien de fatal, comme les lois physiques, comme les lois chimiques, qui sont déterminées. Ce sont des lois de conditionnement, ce ne sont pas des lois de détermination. Est-ce que c'est clair ce que je dis là, dans le sens des mots? Et alors, j'ai étudié cela, par exemple, en sociologie des villes, où on peut établir, par exemple, que, à conditions politiques et économiques connues, des employés de la mairie qui connaissent leur métier peuvent inférer combien il y aura de suicides dans l'année. Et ça marche. Seulement, personne ne peut dire qui va se suicider. Vous voyez la différence? Bon. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le phénomène humain est soumis à des conditionnements. Mais l'individu reste lui. Parce que le conditionnement, c'est un cas particulier de la loi des grands nombres. Alors, si l'individu fait jouer sa liberté, le conditionnement est réaménagé. S'il abandonne sa liberté, alors le conditionnement joue automatiquement. Et ça veut dire que tout se passe comme si, dans les circonstances importantes de son histoire, le peuple juif abdique sa liberté, se laisse aller aux événements, et les événements jouent avec leur mécanisme propre. Ça ne veut pas dire que c'était fatal a priori. C'est-à-dire, au fond, ce qu'il faut mettre en évidence, c'est la clause de mise entre parenthèses de l'initiative de la liberté individuelle. Est-ce que c'est clair? Alors, il est bien évident que, à partir d'aujourd'hui, ce n'est pas évident que dans les années qui viennent, la proportion soit de 1/5 qu'à 1/5. Malheureusement, l'expérience nous montrerait, comme fatalité a posteriori, qu'il faut des événements graves pour que les Juifs bougent. Et donc, ne pensons pas à cette éventualité. Peut-être qu'il se produira un miracle, j'en sais rien. Mais en tout cas, il y a une chose qui se dessine, c'est que cette proportion va changer. Parce que l'assimilation dans la diaspora a un indice d'accélération tel que la proportion des Juifs dans le monde va changer au profit d'Israël. Mais pas parce qu'il y aura plus de Olim, parce qu'il y aura moins de Juifs. Vous comprenez le problème? Et c'est d'autant plus grave. Donc, mais rassurez-vous, toute cette histoire avait commencé avec un hébreu. Tant qu'il y en aura un, c'est pas grave. Et un, c'est sûr. Attendez, minute, je voudrais terminer. Est-ce que tu as compris ce problème? Je n'ai pas terminé. Et je vais vous ajouter deux midrashim. Un midrash goy, grec, et un midrash juif, midrash. Je sais pas. Mythe et midrash. Je ne sais pas si. Il n'est pas content. Je ne sais pas si vous vous rappelez dans vos études. Ça c'est. Où? Lorsque j'avais étudié ces problèmes de statistiques, ce qui m'avait frappé à l'esprit, c'était le mythe du Minotaure. Vous vous rappelez le Minotaure, le labyrinthe, c'est-à-dire, ça veut dire cette espèce de monstre qui a besoin de son lot annuel de jeunes gens, les suicides. Vous avez vu le problème? Et que ça marche. Donc, le Midrash, à la manière du Midrash, disons, pour simplifier un peu, c'est qu'on va comparer deux versets. Que tout se passe comme si, ce que nous avons dit, c'est qu'il y a un mécanisme qui domine, qui gère, je ne sais pas comment on dit, qui rend compte du phénomène dispersion-retour, dispersion 4/5, retour 1/5. Alors, le verset qui dit que nous avons été dispersés par la main de Dieu et que nous serons rappelés par le doigt de Dieu. 1/5. Et en plus, c'est joli. Mais, non. Yad Hashem, Ezra Eloki. Que Dieu nous rappelle avec un doigt. Bon. Alors, mais tout ça, c'est rien. Non, t'appelles, c'est ça. Ça fait 1/5. Je me rappelle d'avoir discuté de cela avec un de mes amis, qui est un juif très pieux et anti-sioniste convaincu, et je lui ai montré plusieurs sources, dont celle-là. Je lui ai dit, mais c'est Tzvar Elohim, c'est le doigt de Dieu qui t'appelle. Il s'agit à Jérusalem, le doigt de Dieu. Et d'autres sources, en particulier un rachis sur un verset de la Torah, que Dieu prend chacun par la main pour le ramener à Jérusalem, il me dit, mais je ne demande pas mieux que Dieu me prenne par la main. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la réponse. Et je lui dis, montre-moi ta main. Tu n'as pas de main. Oui, un juste Dieu qui dit ça. Alors, ça veut dire qu'il y a des causes d'inertie graves qui jouent et qu'on va essayer de déceler dans notre étude. Est-ce que c'est clair? Bon, alors je vous rappelle les dates. La déclaration Balfour, 1917, l'hitlérisme prend le pouvoir en 1933. C'est exactement la même distance de temps qu'entre la déclaration Cyrus et Amman au temps de Cyrus. Vous voyez le délai. Donc,
par rapport à ce que vous dites sur la statistique, le conditionnement à 13e, 14e, 14e, etc., le peuple d'Israël tout entier se distingue des autres nations de par ce fait qu'il est possible pour ce peuple, par le biais de la circoncision, de la mitzvah, de se libérer du déterminisme. Donc pourquoi, au sein de ce peuple, y aurait-il une loi de conditionnement, n'appelée même pas déterminisme, qui joue?
Très bien, c'est une bonne question. Seulement, la différence, c'est que les lois qui conditionnent l'histoire d'Israël n'ont rien à voir avec les lois qui conditionnent, par le déterminisme astrobiologique, les autres nations. C'est ça la réponse. Ça veut pas dire que la liberté d'Israël, c'est une liberté d'anarchie. Elle a son ordre propre. Elle a ses conditionnements propres. Ce qu'on a enseigné, c'est qu'ils n'ont rien à voir avec les conditionnements des goïms. C'est ça. C'est là où est la différence. C'est clair. Et notre histoire nous est racontée par la Torah. Nous vivons l'histoire que raconte la Torah. Mais encore une fois, la Torah nous raconte une histoire avec deux éventualités. J'ai mis devant toi la vie et la mort, choisis la vie. Voilà ce que dit la Torah. Alors lorsque la mort a été choisie, on a cette impression qu'il y avait une fatalité de la mort. C'est pas vrai. C'est ça qui va se reprendre 100 fois. Ça veut dire, par rapport à 4000 ans d'histoire, c'est la même seconde. Tu comprends? Justement, c'est le genre de question auquel il n'y a pas de réponse. Parce que il faut quand même laisser une part d'humour au bon Dieu. C'est pas une machine. C'est le même temps par rapport à 4000 ans d'histoire. C'est la même chose. Tu comprends? Mais j'ai rien à dire. Donc. C'est-à-dire 9 mois, c'est pas 9 mois exactement, ça fait un peu. Regardez comment dit le rabbin ici, regardez. Et après, je vais citer une autre source qui est vraiment époustouflante. Je vais pas la citer maintenant. Regardez comment dit le rabbin. Bestof galutenuze, karor lismanake. J'ai une autre source qui nous dit à la fin du 7e siècle, du 5e millénaire, un peu avant, un peu après, logique, un peu avant, un peu après, arrivera la Géoula. Or, la Géoula est arrivée en l'année 5708. Qu'est-ce qu'il a dit le rabbin? Un peu avant, un peu après. Ça, c'est l'humour de la Torah. Mais un peu avant, un peu après, sur 5700 ans, c'est pile 5708. Est-ce que c'est clair? Non, pas l'Ordovina, c'est une autre source. C'est un rabbin des exilés d'Espagne. Okay. Je vais voir si je l'ai là, sinon je vous l'apporte. Mais une minute.
Une petite question d'ordre historique, ce que vous avez dit, en ce qui concerne la différence entre le nombre d'années entre la déclaration Balfour et la montée d'Hitler d'une part, et la proclamation de Cyrus et la montée au pouvoir d'Amman d'autre part.
Oui.
Alors, Cyrus, il a régné 3 ans. Et puis Achashverosh, il a suivi, et à la 3e année d'Achashverosh,
ça fait moins de temps. Bien. Si tu n'étais pas distrait, tu aurais entendu ta question tout à l'heure. La question vient de tout. La question vient d'être posée. Et j'ai répondu que bien sûr, ça veut dire un peu avant, un peu après, c'est la même chose. Par rapport.
Un peu avant et un peu après.
Voilà. Tu me rappelles des souvenirs d'enfants. Donc, t'as pas changé, hein? Alors, un peu avant, un peu après. Bien. Enfin, heureusement que tu nous détends l'atmosphère. Alors voilà, la référence que je vais vous donner maintenant. C'est se trouve dans la Gemara de Sanhedrin. Pardon.
Ah oui, le couche. Voilà, c'est à ton.
Bon. Bon, quand je me rends compte que je suis... J'allais vous dire quand je suis né. Donc. Alors là... Oui, voilà pourquoi je vous ai cité ce premier texte, et j'aurais pu en citer d'autres d'ailleurs, du Chesed l'Abraham, pour aller au-devant de l'objection. Ah, mais c'est très bien, tout ça on le sait après. Mais pourquoi on ne le sait pas avant? C'est pourquoi j'ai tenu à vous citer un texte qui est à sens, un des plus anciens d'ailleurs, qui vous montre qu'il y a eu ce pressentiment. Alors c'est par là que ça passe. Voilà comment ça passe. Est-ce que c'est clair ce que vous dites? Alors, la source de ce thème, de cette bifurcation d'éventualité, se trouve dans la Gemara de Sanhedrin, à la page 98b, à propos d'un verset d'Isaïe, qui est le chapitre 60, verset 22, et qui dit ceci. Alors je vous demande de voir vous-même ce chapitre d'Isaïe, le chapitre 60, qui est très important, sur lequel je reviendrai souvent. Et ici, il s'agit du dernier verset du chapitre 60 d'Isaïe, et qui dit ceci. « Akaton yelele, le petit deviendra mille, ele. Valsaïr legoy atsum, et le jeune deviendra une nation puissante. Ani Hachem, c'est moi Hachem, be'ita achishena. En son temps, je ferai venir ces choses vives. » Je répète, surtout la fin, cette chose inattendue, que le dernier des derniers va devenir d'un coup puissant, oui, j'interprète, mais dans quel sens j'interprète? Ça arrivera subitement, et en son temps, je le ferai arriver vite. Beita Arishena. Alors, c'est vrai? Je vous écris au tableau. Oui, laissez-moi le dire. Alors, la Gemara signale qu'il y a une contradiction. Et c'est la Gemara de Sanhedrin. Elle signale cela, si c'est Be'ita, lama Ahishena, si c'est Ahishena, lama Be'ita. Avant de voir le drage de la Gemara, qui va nous servir de point de départ, okay, je vais vous expliquer le pshat. Ça veut dire, il s'agit de l'éventualité dans son temps, mais en son temps, ça arrivera vite. C'est le pshat qu'il faut garder, Be'ita Ahishena. En son temps, je ferai arriver les choses vite. Est-ce que c'est clair ce que j'ai dit là? Ça, c'est le pshat. Donc, il n'y a pas de contradiction dans le pshat. La Gemara va dire, va couper l'expression en deux et va poser la question de la contradiction. Im be'ita lama achishena, im achishena lama be'it. Et elle répond comme ça. Zacha, si vous voulez, je mets ça au tableau, c'est pas la peine. Zacha achishena, lo zacha be'ita. Alors, on va pas tourner. Je mets au tableau. Alors, le verset dit Be'ita Arishena. Or, on aura dit Zacha, si la mérité Arishena, je le ferai venir vite, cet événement. Lo Zacha, il n'a pas mérité Be'ita. S'il n'a pas mérité, ça arrive ensuite. Alors, c'est déjà plein de questions. Je vais les énumérer. La première question, je crois, la plus centrale, la plus importante, c'est qu'est-ce que c'est que ce mérite-là? C'est-à-dire, de quelle nature est ce mérite qui ferait que si on mérite, ça arrive tout de suite dès qu'on mérite, quoi? La fin de l'exil. Et que si on ne mérite pas, ça arrive en son temps. Deuxième question, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Quels sont les événements prévus en leur temps? Vous suivez? Bon. Est-ce que c'est clair? Donc, alors, je vais commencer peut-être par la deuxième, qui est un peu plus délicate. La première sera beaucoup plus difficile, je veux dire beaucoup plus longue à établir. Je vous rappelle la question principale, de quel mérite on parle lorsqu'on dit si Israël mérite, la délivrance se fera tout de suite, dès qu'il mérite. S'il ne mérite pas, rendez-vous à la fin des temps. Et cette date de la fin des temps, je vous donnerai plusieurs références, elle était connue, en particulier le Gaon de Vilna, mais pas le seul. Ça veut dire que s'il faut attendre, parce qu'il n'y a pas de mérite, que ça arrive avec l'horloge de temps, alors voilà la date. Elle était connue. Est-ce que c'est clair? Elle était connue, mais elle a été cachée. Je vais vous dire tout de suite pourquoi elle a été cachée, mais nous allons le reprendre très en détail sur une Gemara. Parce que si les rabbins avaient dit, je parle des vrais rabbins, enfin les kabbalistes, si les rabbins avaient dit, ben voilà, si vous méritez aujourd'hui, et il y a énormément de versets là-dessus, Hayom im bekolot ishmaru, quand il viendra, aujourd'hui si tu mérites. Hein, si vous méritez aujourd'hui, sinon, 5708. Alors imaginez, dans, au long des siècles, qui allait attendre 1948 en se disant, ah, si on ne mérite pas, c'est 1948, il n'y a plus de peuple juif, il n'y a plus d'histoire, etc. Mais c'est clair, c'est pourquoi on l'a caché. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu d'impatience. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de calcul de temps possible corollairement d'un mérite éventuel. Et tous ces calculs qui ont été donnés, ces temps éventuels, c'était des temps possibles. Et que ce n'était pas de la charlatanie. Hein. Mais je vous parle de la date ultime, de la dernière qui est véritable. Et cette date dernière, au-delà de toutes les éventualités de mérite éventuels, elle était connue, la preuve, c'est que nous avons des textes qui, depuis des siècles, nous la décrit. Est-ce que c'est clair? Bon, alors je commence par la première question. Je veux dire, sous quelle forme j'ai posé cette question au Rav Kook, c'est qu'on a eu bracha, c'est au moment de la guerre des Six Jours. Nous connaissions par d'autres textes la date exacte de la délivrance de Jérusalem par Israël. Donc, la date de, du Kotel, le 28 Iyar. Et puisque, effectivement, comme nous allons le voir, les événements qui sont arrivés pour nous dans son point d'exil sont arrivés en leur temps. C'est-à-dire, ça, on étudiera à partir de la clause que quel mérite il y a ou il n'y a pas. Bien ? Et on verra que finalement les choses sont arrivées avant. Et alors, ce jour-là, les plus étonnés, c'était ceux qui savaient, parce que ceux qui ne savaient pas. C'est-à-dire que non seulement c'est vrai, mais c'est vrai que c'est vrai. Je veux dire que l'expérience de ce genre d'étonnement est très profonde, c'est indescriptible. On savait ça depuis longtemps, que si ça doit arriver, que si ça arrive, ça arrivera à cette date-là. Or, ça arrive cette date-là. Si vous savez le nombre de facteurs convergents qu'il faut faire converger pour que ça arrive, c'est vertigineux, c'est inimaginable d'imaginer l'étonnement. C'est clair. Donc, avant d'arriver plus loin à la question que je vous ai posée, je voulais vous dire, c'est ces textes qui connaissaient ces dates. Eh bien, ça indique aussi une autre chose. Pourquoi il y avait le secret? Parce qu'on craignait un effondrement de la patience. Est-ce que c'est clair? Regardez, cette terrible force des rabbins d'avoir réussi à faire qu'on a entendu ça pendant de nombreux jours en jour, en disant, bon, pas aujourd'hui, demain, l'année prochaine, ça s'est reconduit jusqu'à nous. Vous avez compris le problème? Mais clairement, je voulais mettre encore en évidence autre chose. C'est la force de se taire alors qu'on savait de quoi il s'agit. Est-ce que c'est clair? Et je ne pourrais pas en parler si nous n'avions pas les textes. Alors bien sûr, certains de ces textes sont allusifs, sont codés, mais d'autres sont clairs. En particulier le texte du Gaon, dont je vous ferai photocopier la source, et que vous lirez avec moi un des prochains cours. Et ne me posez pas la question que je vais poser, alors si on connaît les dates du passé jusqu'à maintenant, c'est qu'on en connaît d'autres. J'ai pas posé la question. Alors, je reviens donc à notre problème, c'est... je ne me rappelle plus où j'étais exactement. Ah oui, comment j'ai posé la question, raconte. C'est au moment de la guerre des Six Jours. Si je vous posais la question, je dis, c'est énorme, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ça arrive à la date. Et je n'arrive pas à vous restituer l'étonnement, c'est un étonnement énorme. Très, très, très joyeux, mais avec une crainte dans cette joie, parce que ça donne le vertige. Vous comprenez le problème? Alors il m'a répondu avec son petit sourire en coin habituel dans les yeux. Il m'a répondu comme ça. Il m'a dit, dis-moi, si on te dit qu'une femme est enceinte, est-ce que ça ne veut pas dire que dans 9 mois, elle aura un enfant? Alors celui qui entend qu'une femme est enceinte, d'abord il dit, madame, et dans 9 mois, il y a un enfant. Alors quoi? Le monde est soumis à la fatalité? Quand on fait un enfant, c'est comme ça. Dans 9 mois, il y a un enfant. Est-ce que c'est clair ce que je dis? C'est pas clair? Moi, j'ai compris tout de suite. Ça veut dire que il y a des processus de la vie à l'échelle individuelle. Il y a des processus de l'histoire à l'échelle collective. Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas des processus de l'histoire à l'échelle collective. C'est-à-dire, s'il faut que cet enfant qui s'appelle Israël, qui est en gestation dans la matrice d'égoïne, l'humanité, pour arriver à naître, si on le laisse fonctionner les événements naturels, ceux qui connaissent les mécanismes des événements naturels, les prophètes peuvent vous dire, ah, si l'accouchement est naturel, c'est cette date-là. Si l'accouchement est anticipé, n'importe quand, dès que tu mérites. Vous voyez, c'est clair? Voilà. C'est-à-dire, c'est pas plus sorcier, si j'ose dire, de savoir que 9 mois après, jour pour jour, d'après la gamatria que je vais vous donner, 9 mois de la Lune, comme de celle, hein, c'est la valeur numérique du mois Eraïon, qui signifie la conception. Que 9 mois, jour pour jour, un enfant va naître, que ça veut dire t'es prophète? Oui. Et, mais qu'est-ce que ça veut dire t'es prophète? Tu sais comment ça se passe. Alors c'est prophète. Vous voyez, c'est clair? Bon. J'espère que c'est clair. Parce que la réponse qu'il m'a donnée, ça m'a tellement éclairé sur le moment que je me suis dit, mais c'est comme ça qu'il faut expliquer. Mais vous m'inquiétez. Alors, bon, réfléchissez à ça. C'est-à-dire que à partir du moment où on a la connaissance des mécanismes de l'histoire, eh bien, c'est pas plus étonnant de savoir que 9 mois après la conception et un enfant, que de savoir que X temps après la destruction du temple, il y a le retour. Si on se laisse aller à l'événement naturel. Ça va jusque-là? Bon, je veux dire au mécanisme naturel. Et vous savez que dans l'histoire de l'humanité, et dans énormément de sociétés, pendant très longtemps, on n'a jamais fait le rapport entre la naissance d'un enfant et la conception. Et que c'était toujours miraculeux quand l'enfant naissait, on ne savait pas quand, quoi avait commencé quand. Est-ce que c'est clair, je veux dire? Et puis finalement, un jour, on s'est aperçu qu'il y avait un lien. Et alors, ça nous semble aller de soi que 9 mois après la conception, parce qu'on le sait déjà, mais tant qu'on ne le savait pas, on ne le savait pas. Bon, j'ai compris l'explication, en tout cas formelle, je suppose. Bon. J'avais d'ailleurs posé une deuxième question, je le rappelle, parce qu'on a déjà entendu, le jour même, qui, je dois vous dire, me préoccupait au moins autant, si ce n'est pas plus. Elle dit, mais finalement, a posteriori, c'est tellement évident que ça justifiait l'option sionique qu'en 48 ça avait commencé, la date de 48 aussi était connue d'ailleurs, ça faisait de notre génération quelque chose de tellement exceptionnel qu'inévitablement il y a une autre question à poser, que je vais poser, et pourquoi nous? Parce que tous ces hommes, à travers 2000 ans, est-ce qu'ils n'ont pas mérité? Quand je vous cite tous ces colosses qu'on cite dans nos études, okay. Alors il m'a répondu, nous posons la question parce que nous ne savons pas qui nous sommes. Et je crois qu'il n'y a pas d'autre réponse. Si nous savions qui nous sommes, nous ne poserons pas la question. Alors après un silence, c'est clair, c'est lui. Ne vous regardez pas dans ma glace. Et alors, Émilie, laisse-moi finir de voir. Et après un silence, il a ajouté, nous sommes les derniers des derniers et les premiers des premiers. Et ce n'est pas si bien que ça. Ça veut dire que si la mutation s'est faite, nous sommes les derniers juifs et les premiers hébreux. Et alors ça, ce n'est pas rien. Il n'y a qu'à ceux-là que ça peut arriver. Parce que c'est clair. Donc, alors voilà, je referme donc la parenthèse. Si il n'y a pas d'autres questions, on... Oui. Ben, je ne pensais pas arriver à l'heure, mais je suis arrivé à l'heure. Oui, alors, d'accord. C'est
au sujet de... Que vous il y a beaucoup de guerres que vous avez signalées.
De guerres
48,
signalées
toujours.
Qu'est-ce que
vous avez choisi? Vous ne l'avez
jamais signalé.
Non, mais elle dit autre chose.
Non, en tant que date qui était écrite.
Mais, je veux dire,
bien.
Mais j'ai pas dit que c'était des dates qui étaient écrites. J'ai pas parlé des guerres, ce qui est un autre problème. Ça veut pas dire que. Mais j'en ai pas parlé d'une minute, j'en ai pas parlé du tout. J'ai parlé d'événements. Quel événement? L'indépendance, la délivrance du côté de Jérusalem. J'ai pas parlé de l'aspect des guerres qu'il a fallu pour. Ça, c'est encore un autre chapitre. C'est clair? T'as compris? J'ai parlé des événements. Et je crois qu'une minute, il faudrait bien que ça soit clair entre nous. C'est la désignation des événements qui est le signe. C'est pas le signe qui explique l'événement. C'est l'événement qui est le signe. Est-ce que c'est clair ce que je veux dire? Par exemple, donnez-moi un signe que vraiment l'exil a pris fin. Quel signe tu veux que je te donne? Sinon que l'exil a pris fin. Ça veut dire que les exilés reviennent. C'est ça le signe. Est-ce que c'est clair? Nous reviendrons dans la Gemara d'ailleurs. Oui. Mais j'ai pas donné la réponse. Non, J'ai dit ça. Ça, il va nous falloir plusieurs cours pour y arriver. Bien sûr, c'est la question de fond. Parce que, je veux dire un petit peu déjà ce soir, on risque de basculer dans un niveau absolument infantile en disant le mérite des actions pieuses. Parce que c'est habituellement comme ça qu'on perçoit le problème. Ça ne veut pas dire que le mérite des actions pieuses, ce n'est pas négatif, ça n'a pas une importance, bien sûr. Mais ce n'est que le sommet de l'iceberg, là, comment on dit ça ? De l'iceberg, hein. Il y a un problème de mérite au niveau de l'identité qui n'est pas facile à découvrir pour la culture occidentale. Ça dépasse le problème du mérite des actes. C'est un problème d'un mérite d'option d'être. Est-ce que c'est clair ce que vous voulez ? Par exemple, cette thèse qui consisterait à dire, eh bien, soyez de bons garçons, vous savez comment on dit ça en hébreu, hein, si vous y allez à l'Ibn veillez-vous. Alors, ce n'était pas si clair que ça. Parce que la Gemara va nous dire quelques phrases plus loin, Ben David va, et la Bedor Shekulo Chayav, Bedor Shekulo Zakai, ou Bedor Shekulo Chayav. Comme quoi, c'est pas, ça ne dépend pas de ça. Est-ce que c'est clair ? C'est cette notion de mérite d'être qui va falloir faire effort pour découvrir. C'est vrai, mais c'est en Israël que ça se fabrique.
Ça veut dire que le mérite d'être est complètement différent de l'hébreu à l'heure actuelle, de ce qui était lors des bonjours des précédents, dans la mesure où vous pouvez jouer la cause d'un autre église.
J'ai pas compris, répète.
Le mérite d'être du futur en Israël est différent de celui de.
Ah oui. Ça veut dire que c'est d'un autre ordre. C'est de notre offre parce que nous n'avons pas obtenu cette délivrance par le mérite, puisqu'elle est arrivée en son temps. Okay? Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas des individus qui auraient mérité, bien sûr. Par exemple, je vais parler du temps du Hari. Okay? Mais c'est le clan qui n'a pas mérité. Et donc, la question de par quel mérite ça nous arrive à nous, c'est dans une autre dimension. Okay? Est-ce que c'est clair? Mais je vais ajouter juste une petite analyse. Pour terminer l'analyse de ce soir, c'est que, d'un certain côté, lorsque ça arrive dans le Hachishana, ça arrive dans l'eschatologie bienheureuse. Ça rejoint ces textes qui prévoient les contes de fées et merveilles de l'arrivée du Messie. Okay? Mais d'un autre côté, étant donné que, quand ça arrive dans son temps, ça ne dépend pas du mérite, alors c'est sûr. Est-ce que c'est clair ce que je dis? C'est-à-dire, il y a une certitude absolue. Pourquoi ? Parce que ça ne dépend pas de nous. Je veux dire, ça ne dépend plus de nous.
Oui.
Hein ? Qui a dit ça ? Non, je suis désolé. Non, je suis désolé. Là-dessus, je vais répondre. Essayez d'entendre les choses comme je l'ai dit, ou bien c'est. Vas-y. Mais ça n'arrive pas à n'importe qui. Et ça n'arrive pas n'importe comment. Je vous raconte une histoire tout à l'heure, mais je veux d'abord répondre à cela. Fais bien attention au sens des mots. Okay? Ça veut dire que l'événement est arrivé pour ceux pour qui il est arrivé, c'est pas pour n'importe qui. Okay? Mais l'événement n'a pas dépendu d'un mérite qu'il aurait fait arriver plus tôt. Ça veut dire que c'est l'accomplissement d'une promesse. Mais il faut aussi être celui que cette promesse concerne et vivant. Est présent au rendez-vous. Et là, il y a un mérite colossal, mais qui n'est pas ce mérite dont on a parlé tout à l'heure. C'est encore une autre dimension. Ce que je veux dire, c'est ceci. C'est que le plus, cherche un mot, mais vous comprenez, qu'il y a dans le fait que ça arrive en son temps, c'est que c'est sûr, irréversible, parce que ça ne dépend pas du mérite. Ça dépend de l'être. Je ne sais pas si c'est suffisamment clair. Ne croyez pas que c'est pas Dieu qui fait ça, mais c'est pas à n'importe qui le fait. C'est ça le problème. Alors, il le fait de deux manières. Ou bien quand ce n'importe qui mérite plus vite. Comme nous disons dans la prière, qui parle de cela, de la délivrance, Ba'agala, Bisman Kari, Bimera, Biamenu, c'est pas ça qui est arrivé. Ce qui est arrivé, c'est Be'ita, pour cet événement-là de la délivrance. Et c'est un processus. Je ne vous dirai pas quel temps on est, mais c'est bien avancé. Okay? Eh bien, ce n'est pas n'importe qui l'a fait ça. Il fallait que ce peuple d'Israël soit présent au rendez-vous pour que ça puisse être. Seulement, qu'est-ce qu'il y a de comment on dit ça en français? Ah, plus, je n'ai pas d'abord. Okay. Plus, ce n'est pas exactement le même sens. Donc, ce qu'il y a de plus, disons, c'est le fait, hein? Oui, c'est plus qu'un supplément. C'est le fait que si l'événement n'a pas dépendu de notre mérite, mais de l'accomplissement des promesses de celui qui a promis, alors c'est sûr, quand le bon Dieu fait une mitzvah, il a fait juste lui. Est-ce que c'est clair ce que je dis? Alors, c'est ça que je comprends. Alors ça veut dire qu'il faut rester passif, jamais de la vie. Et c'est pour ça que je vais vous raconter deux anecdotes, mais j'ai dit tout à l'heure, le vrai problème c'est à quel prix. L'événement lui est irréversible, mais à quel prix, ça dépend du mérite. Encore. Est-ce que c'est clair? Et la première anecdote, je l'ai racontée très souvent, mais je la répète pour ceux qui ne l'ont pas entendu, ça va tout à fait dans ce sens-là. Et je cite encore Moshe Dayan. Quand on lui a demandé, après la guerre des six jours, c'est un journaliste qui lui a demandé sur un ton ironique, est-ce que vous ne croyez pas que le bon Dieu vous a un peu aidé? Il a répondu, de but en blanc en hébreu, vous n'avez rien compris, c'est nous qui l'avons un peu aidé. Ça veut dire que c'est évident que c'est Dieu qui a fait ça, c'est pour ça qu'on est tranquille. Mais à quel prix, ça dépend de nous. Puisque c'est arrivé à sa date. Enfin, sa date, celui-là. Bon, la deuxième anecdote, je l'ai entendue du... je l'ai entendue du Rav Aviner. Qui raconte ça comme ça. Pour expliquer la position des Juifs qui attendent le Messie pour venir en Israël. Et ça, on apprendra que ce n'est pas lié, forcément. Bon. Elle dit comme ça, un juif très pieux un jour, il a lu un verset de la Torah, et si vous accomplissez mes commandements, je donnerai de l'herbe dans vos champs. C'est dans le Kratchma. Il a eu une idée de génie, il s'est dit, mais moi j'accomplis les commandements. Alors il est allé dans son champ, il a pris un tabouret, il s'est assis, il attendait que l'herbe pousse. Il a écrit comme ça, et si vous accomplissez mes commandements, je donnerai de l'herbe dans votre champ. Hein? Et un autre du feu qui passait. Il dit, qu'est-ce que tu fais? Tu es devenu corse? Non. Il dit, non, je suis pieux. J'attends que le verset s'accomplisse. Et il y a écrit, et si vous accomplissez mes commandements, je donnerai de l'herbe dans votre champ. Et il lui a porté une pelle et une pioche, il a dit, et si tu travailles un peu? Il a dit, c'est vrai que c'est Dieu qui va te donner cette herbe. Mais comment? Vous voyez, c'est clair. Alors, bien sûr, que c'est vrai que c'est Dieu qui fait ça, mais à quelles conditions? Ça dépend de la pioche et de la pelle. Je vois qu'on a encore une autre histoire, on s'arrête là. Celle-là, c'est ma fille qui me l'a ramené du Pérouton, c'est la métapellette qui lui a raconté, c'est pour les bébés. Une histoire israélienne. Il dit comme ça, il y a, vous savez, au Kotel, on met un petit pétec pour demander ce qu'on demande. Alors, depuis un an, jour pour jour, il y avait un juif qui mettait un pétec, mon Dieu, fais-moi gagner la loterie. Et il ne gagnait pas. Fais-moi gagner la loterie. Et il ne gagnait pas. Finalement, il y a un ange qui a demandé au bon Dieu, aie pitié de lui, que ça peut se faire, fais-le gagner. Et le bon Dieu qui lui a répondu, et ici, prenez déjà un billet. Ah. Alors, c'est ça.